culture-prohibé.blogspot.com. Au sommaire, aujourd'hui, une émission spéciale SF, fantastique et horreur. Je sais, c'est un peu fourre-tout, mais enfin, en gros, une émission mauvais genre, hein, voilà. Donc, on va vous causer du coffret Gamera, les années Showa, la partie 1, qui est sortie chez Roboto Film et qui réunit donc les premiers films de la saga Gamera. Donc, il y a Gamera, hein, de Noriaki Yuasa, il y a Gamera contre Barugon, ça rigole pas, de Shigeo Tanaka, et Gamera contre Jaos de Noriaki Yuasa qui revient aux affaires donc pour ce troisième volet. On vous causera aussi de trois films sortis chez Rimini Edition, à savoir Project X, un film de 68 de William Castle, le fameux William Castle, Le Cri des Ténèbres, un film de 1980 de William Fruet, un peu oublié, mais qui a eu son heure de gloire, William Fruet. Et puis Weekend de Terreur, un film de 86 de Fred Walton. Alors Fred Walton, lui, ça a été un cinéaste qui a joui d'un certain culte, qui continue d'en jouir. Je pense que notre ami Thomas Roland, présent dans ce studio, nous en dira un peu plus. On reviendra aussi sur le coffret des 13 cauchemars de la Hammer. Alors on ne va pas redétailler l'ensemble du coffret paru chez Éléphant de Film, puisqu'on l'avait fait à l'époque de la précédente sortie. Là, c'est juste que le coffret est ressorti avec un ajout. Un titre remasterisé qui en avait bien besoin parce que la copie initiale était un peu fatiguée. C'est Le Spectre du Chat, un film de 61 de John Gilling. Et puis on parlera de The Island, un film de 85 de Pochi Leong qui est sorti chez Carlotta Film. Alors là, un film bien barré hein, quand même. Et puis on terminera rapidement sur Bambi la Vengeance, hein, un film de Dan Allen sorti chez Arcades Édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Je l'ai déjà cité, alors du coup je vais en profiter pour lui dire bonjour. Dans ce studio est présent oui, cet étrange personnage appelé le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas Roland.
Bonjour Jérôme Potier et bonjour à toutes.
Également présent dans ce studio, Damien de Médi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. On vous jure, il est vraiment archéologue, hein, il n'est pas que cinéphile. Co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Mon cher Damien, puisque tu as la parole, tu vas la garder. J'ai décidé que tu allais nous causer Kaiju Eiga. Le genre se voit donc consacré à un très beau coffret paru chez Roboto Film qui s'appelle Gamera, les années Showa, partie 1. On avait parlé hein, de cet éditeur à l'occasion d'un coffret qui réunissait une première partie des films de la saga Zatoichi. Alors là, on est dans autre chose, on n'est pas dans du Shambara. On est carrément dans un autre univers, ce fameux univers des Kaiju Eiga, ce fameux univers de ces monstres géants. Mon cher Damien, tu vas pouvoir de suite nous en dire plus.
J'adore les Kaiju. Quand j'étais petit, comme beaucoup de personnes, j'ai découvert Godzilla et ensuite je suis tombé dedans. Petite particularité, si on parle des années Showa, c'est tout simplement en référence à l'empereur du Japon à ce moment-là. C'est comme ça que sont réparties en fait les différentes années de sortie de films, ce qui est une façon de compter, de prendre en compte, qui est assez particulière, mais que j'aime beaucoup. Alors, Gamera, il sort en 1965, il est fait par Noriaki Yuasa, en espérant ne pas trop massacrer la prononciation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le dernier Kaiju Eiga qui sort, qui est en noir et blanc. C'est le dernier de son genre. Après, ils seront tous en couleur. Alors, Gamera, ça parle de quoi? Ça commence par des avions militaires qu'on suppose russes chargés de bombes nucléaires qui vont être détruits par d'autres avions et qui vont s'écraser au pôle Nord. Ça va déclencher une explosion atomique qui va réveiller Gamera, qui était endormi à cet endroit-là. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est présenté au début comme un monstre préhistorique qui ressemble à une immense tortue et qui adore se nourrir de chaleur. Le problème, c'est que la chaleur, on la trouve dans les villes, donc il passe son temps à attaquer les villes pour avoir chaud. L'armée va tenter un dernier mouvement désespéré pour essayer de s'en débarrasser. Et ce mouvement désespéré, je vous en parlerai quand je parlerai du deuxième film. Alors, Noriaki Yuasa, il est très lié à Gamera. Il a fait le premier film, il a aussi fait le troisième. Il a apporté beaucoup d'idées à l'intérieur de ce film. Première chose qui est toujours sympa sur les vieux films avec des kaijus, c'est les comédiens dans des costumes. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Là, voir quelqu'un dans un costume de tortue géant, enfin du coup, non, un costume de tortue simple, essayer de se déplacer sur des paysages en maquette, c'est très drôle. Il y a beaucoup de maquettes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. Tout ce côté vraiment à l'œil qui est sensible, qu'on sent qu'on pourrait toucher, qu'on pourrait porter, même si je pense que la tenue est un peu petite pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gamera, c'est en effet une grosse tortue, mais c'est pas n'importe quelle grosse tortue, c'est une grosse tortue qui peut cracher du feu. Ce qui en fait une grosse tortue... qui crache du feu, mais j'imagine que c'est une menace en plus. Autre chose, c'est que pour se déplacer, elle peut rentrer sa tête et ses pattes à l'intérieur de ses carapaces, et à ce moment-là, elle se soulève dans les airs et elle se met à tourner et à se déplacer, ce qui la rend très proche d'un ovni lorsqu'elle se déplace, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent voir des ovnis. Je vous rassure, vous ne voyez pas d'ovni, vous voyez juste Gamera, une tortue géante qui crache du feu et qui se déplace en volant. C'est... Oui, Jérôme, c'est donc ça.
Je saurais m'en souvenir.
Dernier truc qui est assez particulier, c'est son cri. Et j'arrive plus à me souvenir s'il fait cri de Godzilla ou s'il fait un cri de T-Rex, mais il a un cri qui est très particulier. Alors, autre chose, et c'est la dernière chose, et ensuite je me replonge vraiment dans le film, c'est qu'il y a un moment, quand Gamera apparaît, il y a le scientifique qui va dire... partout où il peut aller, qu'il y a un monstre qui s'est réveillé, et les gens ils vont faire plein d'articles dessus. J'ai pas l'impression que les gens ils le croient beaucoup, mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup d'articles de journaux, et parmi les journaux qu'on va avoir, on va avoir Le Monde, qui apparaît dans ce film, et qui du coup nous donne une traduction, parce qu'il semblerait que Gamera en français, ça se dit pas Gamera, ça se dit Gamela. Donc j'espère ne pas tromper pour le reste. Autre chose, c'est un film qui va beaucoup fonctionner dans le pays, qui va avoir ensuite une sortie internationale dans laquelle on va rajouter plus d'acteurs blancs, sans doute pour que le public américain puisse s'y accrocher. Gamera, la façon dont il finit à la fin, c'est qu'après plusieurs tentatives, il réussit à l'envoyer dans l'espace. Mais ce qui est intéressant avec ce kaiju-là, c'est que je trouve qu'il a un peu une symbolique de la guerre qui dégénère. Ça veut dire qu'on va avoir des avions russes qui vont s'écraser, déclencher une explosion nucléaire qui va libérer Gamera, qui va commencer à détruire les différentes villes, un peu comme une course... à la fin à l'espace, mais une course technologique qui apporte la destruction. Ça pourrait être une symbolique qui était vue si en fait le film n'était pas surtout pensé pour les enfants. C'est vrai qu'à l'intérieur du film, on va retrouver un enfant dont la présence va être essentielle, parce que l'objectif du film, c'est d'être un film tout public. Ce qui est un truc qui est très drôle, parce que lorsqu'ils attaquent le deuxième film, tout change. En fait, dans le deuxième film, Gamera contre Barugon de Shigeo Tanaka, ce qu'on va suivre, c'est des chasseurs de trésors qui vont se retrouver dans un lieu reculé. Ils vont trouver une opale géante, mais il se trouve qu'en fait ce n'est pas une pierre qu'ils trouvent, c'est un œuf géant de Barugon. Barugon, c'est un lézard, mais je vous en reparle un peu juste après. Et quand l'œuf éclos, le monstre fait des ravages, sauf que heureusement pour nous, Gamera est de retour sur Terre, échappé de sa prison spatiale, et va s'attaquer à la bête afin de nous protéger. Cette fois, on a un réalisateur différent. Par contre, au scénario, on a toujours Nissan Takahashi, qui était déjà là pour le premier scénario. Cette fois, on a un film qui est en couleur, et ce qui est très drôle, c'est qu'il fait des flashbacks du premier film, mais vu que le premier film était en noir et blanc, les flashbacks du premier film sont aussi en noir et blanc. Gamera, il est sorti de sa prison spatiale. C'est intéressant parce que c'est un truc qui arrive très vite dans le film. Et en fait, ça, c'est pour moi un moyen, une triche qu'ils utilisent, parce que durant très longtemps dans le film, on voit plus du tout de monstres. Il faut attendre un certain moment avant qu'ils reviennent. Quand on se retrouve même sur l'île isolée, moi je m'attendais à avoir une première apparition de Barugon, c'est pas le cas. J'ai plutôt des japonais avec certains qui ont la peau assez sombre, dont j'arrive pas à savoir si c'est vraiment leur... Alors des japonais, sans doute. Couleur de peau assez sombre, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment leur couleur de peau ou si c'est un blackface. Mais ça, c'est pas trop un problème, en tout cas dans le film. La première chose qu'on remarque ici, en fait, c'est l'absence d'enfants. Parce que c'est un scénario qui est beaucoup moins enfantin, qui essaye de prendre une direction un peu plus mature, ce qui est assez bizarre. Bon, je le trouve moins bien que le premier, mais là où il réussit, c'est que cette fois, au lieu d'avoir un seul acteur en costume, on en a deux. Le premier, c'est une tortue. Le deuxième, c'est un lézard. Alors, notre lézard, il est assez proche d'un iguane. Il se bat avec sa langue qui est extensible, c'est ce qui lui permet de lancer des attaques. Langue qui peut également sortir de la brume du bout de sa langue. Brume ou extincteur, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il fait. Dernière attaque possible, c'est avec son dos, il peut faire des arcs-en-ciel. Alors, malheureusement, ce film, il va beaucoup moins fonctionner que le précédent. Par contre, on retrouve déjà une mise en place d'éléments qui vont souvent revenir dans Gamera, mais aussi dans plein de films de Kaiju. On a besoin de l'armée, on a besoin de la science, et on a besoin ici de Gamera pour réussir. C'est la solution dont on a besoin à chaque fois. Et c'est une solution qu'on retrouve dans le troisième film, Gamera contre Jiaos de Noriaki Yuasa. Il est de retour, cette fois on est en 1967. Ce qui se passe cette fois, c'est qu'on a une éruption volcanique qui révèle un monstre ailé dévastateur nommé Jiaos. Alors que tous les plans de l'armée tombent à l'eau, qui arrive ? Gamera qui, une fois de plus, va essayer de vaincre le monstre pour nous sauver. Alors, le retour de Noriaki revient parce que le précédent film, ça a été un échec. Autre chose qu'on va avoir, c'est que parmi les acteurs qui se baladent au cours du film, on retrouve Kichiro Ueda, qui a fait beaucoup de films avec Kurosawa, notamment Les Sept Samouraïs. Là, par contre, on voit que même si le deuxième film a été un échec, dans le troisième, ils mettent plus de moyens. Déjà parce que dès le début, on a des scènes qui sont assez cool. Par exemple, on a un avion qui va être ouvert en deux. On a la scène de régénération de Jiaos qui perd un bout de lui, mais qui revient. Autre chose, on récupère ce côté enfantin, parce qu'on se disait que c'était le truc qui avait fonctionné. Du coup, on le ramène. Du coup, c'est un film qui est un peu plus enfantin. On retrouve un ton qui est pareil que celui du premier. À nouveau, comme je l'ai dit, par rapport au deuxième, il est un peu victime de son format. C'est-à-dire qu'on va avoir les scientifiques, l'armée qui vont essayer de vaincre Jiaos, qui vont échouer. Gamera va arriver, va perdre, mais va leur donner la solution. Ils vont réussir à affaiblir le monstre. À la fin, Gamera va le vaincre. Ce qui rend vraiment ce film intéressant, c'est à nouveau le monstre adverse. Jiaos, qui est un méchant ptérodactyle qui possède le pouvoir de régénération, qui tire ce que j'appelais un rayon laser de sa bouche, mais j'ai découvert que c'était un rayon supersonique en fait. Seul point faible, c'est qu'il craint la lumière, il adore le sang, et quelque chose qui craint la lumière et qui adore le sang, ça fait beaucoup penser aux vampires et c'est normal en fait. L'idée de base de ce monstre, c'était de surfer sur le succès d'un autre film, de Kaiju qui était Frankenstein, mais il faut se dire un Frankenstein version Kaiju. Et en fait, en voyant ce film réussir, ils se sont dit on n'a qu'à faire un Dracula Kaiju. Et c'est ce qui nous donne Jiaos, qui est en fait un film qui est tout simplement Gamera contre Dracula. Il y a une petite particularité que j'aime bien dans celui-ci, c'est un enjeu social, parce qu'on a toute une zone qui est liée à la construction. Il y a beau avoir un monstre dans les alentours, ils essayent quand même de terminer leur travail de construction. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans cette zone, en fait, tous les lopins de terre n'ont pas été achetés parce qu'il y a des paysans qui se battent pour essayer de garder leur terrain. Et ça, c'est un enjeu qui arrive un peu dans le fond, mais qui rajoute un peu de sel à cette histoire de grosse tortue contre vampire ptérodactyle.
Ouais, différentes choses. Alors, faut savoir que ce Frankenstein, quand même, il faut le dire, en 65, il a fond de baragon. Tant qu'à faire, ça fait le lien, du coup, parce que là, il a fond de baragon aussi dans le deuxième, Gamera. Alors, on apprend plein de choses avec les bonus de ce coffret, en particulier Fabien Moreau, qui nous explique qu'en fait... Le premier film, il est mis en place parce qu'il y a, il y a un film qui est en cours de tournage et le tournage s'arrête et du coup, les décors sont là. Donc du coup, ils font ce kaiju qui tourne dans les décors pour essayer de ne pas perdre trop d'argent par rapport à ce qu'ils avaient investi sur le premier film. Enfin, sur le film initial. D'ailleurs, je ne sais pas lequel c'est. Le troisième, tu as évoqué la figure du vampire. Et en fait, c'est aussi parce qu'à l'époque, il y a un énorme succès des films de la Hammer au Japon. Et d'ailleurs, il suffit de voir tout le merchandising Hammer en japonais. Ça cartonnait. À tel point qu'il y aura même d'ailleurs des productions avec l'Asie à un moment. Il y aura les 7 vampires d'or, tout ça. Enfin bref. Et donc, il y avait vraiment un gros potentiel commercial pour tout ça. Et puis, ce qui est intéressant pour moi dans les kaijus, parce que les kaijus, on a tendance toujours un peu à en rire, en fait, avec le côté... Moi c'est avec ça que j'ai du mal, en fait, quand j'ai découvert les kaijus, je pense que j'étais trop vieux. C'est vrai que quand il y avait Mothra, la mythe géante, ça me faisait marrer, en fait. Mais sauf qu'en fait, quand on analyse en profondeur ces films, ils sont l'expression des terreurs japonaises réelles. Et par exemple, le kaiju le plus célèbre, c'est Godzilla. Et Godzilla, le premier, c'est un succès d'années d'expérience liée au nucléaire. Dans un pays traumatisé par la bombe, par Nagasaki, Hiroshima. Et dans les derniers Godzilla, c'est l'émanation d'un tsunami dans une centrale nucléaire. qui rappelle évidemment les événements survenus au Japon ces dernières années.
L'avant-dernier, le Shin Godzilla du réalisateur d'Evangelion.
Exactement. Et en fait, du coup, ce qu'on voit, c'est que derrière ces divertissements dont les Japonais sont très friands, hein, parce que ça continue de cartonner au Japon, tu le rappelais, ils continuent de faire des Godzilla, des Ultraman et tout ça. C'est,
Godzilla,
c'est,
Mini Swan.
Exactement, qui sont d'ailleurs très bien. D'ailleurs. Bon, qui n'ont pas plus le charme des costumes plissés, hein. Là, on est passé à des effets spéciaux d'un autre niveau. Mais c'est vraiment un genre, pour moi, qui n'est pas sous-estimé, parce que c'est un genre qui est révélateur des peurs qui règnent chez les Nippons. Quoi. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant à analyser, je trouve, de ce point de vue-là, d'un point de vue historique, l'évolution du personnage de Godzilla et l'évolution de tous les kaijus par rapport aux peurs liées au nucléaire qui ont évolué avec le temps, parce qu'il y a une époque où le nucléaire est devenu notre ami. Hein. Disney a d'ailleurs produit un énorme film de propagande qui était diffusé dans les écoles aux États-Unis. Je crois d'ailleurs que la traduction littérale, c'est « Le nucléaire est notre ami », où on explique tous les bienfaits du nucléaire, puisque énergie la plus propre et tout ça. Ce qui est vrai, on ne sait pas quoi faire des déchets, mais ce qui est vrai, c'est l'énergie la plus propre. Et du coup, de ce côté-là, il y a eu toute une sorte de propagande qui s'est faite. Sauf qu'au Japon, il y a eu le tsunami et il y a eu la catastrophe de Fukushima. Et les Japonais, eux, du coup, ils ont bien compris que... même si le nucléaire est ton ami, il ne faut quand même pas qu'il y ait une catastrophe climatique parce que c'est les radiations produites par le nucléaire, c'est un danger incroyable pour la population. Donc oui, alors ça s'appelle donc Gamera, les années Showa, partie 1, c'est chez Robotofilm. Et donc mon cher Damien, tu as gardé ton âme d'enfant et on le conseille vivement. Vous écoutez Culture Prohibée. Alors, nous n'étions pas enfants, mon cher Thomas, au moment où tous ces films sont sortis, puisqu'ils sont plutôt sortis dans les années 60 et un petit peu dans les années 70. Dans les années 70, on était enfants. Mais le coffret 13 cauchemars de la Hammer, qui met en avant, donc, chez Elephant Film, toute une série de films dont on a déjà pas mal parlé dans l'émission, hein. Les Maîtresses de Dracula, Terence Fisher, génial, film extraordinaire, avec en plus un héros d'une ambiguïté sexuelle, d'une modernité absolument incroyable. La Nuit du Loup-Garou, film incroyable, à une époque où Oliver Reed jouait des rôles sans être sous, et c'est assez incroyable, on n'est pas dans Gladiator. Le fascinant Capitaine Clegg, Le Fantôme de l'Opéra, qui n'est pas la meilleure adaptation pour le coup, Paranoïaque, Le Baiser du Vampire de Don Sharp, là c'est pareil. Grand film, Meurtre par procuration, L'empreinte de Frankenstein, Freddy Francis, ma mémoire est bonne, Comtesse Dracula, La fille de Jack l'Éventreur et Le cirque des vampires, excellent. Mais surtout, nous, on voulait parler, mon cher Thomas, d'un film qui s'appelle Le spectre du chat, qui est un film de John Gilling, alors qui est un film un peu bizarre en plus, parce qu'il n'y a pas le logo Hammer au début du film. Un film là qui, du coup, dans le coffret, a eu le bonheur d'être remasterisé, et c'est tant mieux parce que la copie initiale était très très fatiguée. Et donc le spectre du chat, mon cher Thomas, toi qui es l'ami des chats, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus longuement.
Eh oui, imaginez avoir un fantôme de chat chez vous. Il miaule et fait la bringue à 3h du matin, vous réveille à 6h parce qu'il a faim, et fait tout tomber dans la baraque et laisse des traces de griffures sur vos meubles préférés. John Gilling pensait-il signer un film aussi éprouvant en acceptant de réaliser Le Spectre du Chat en 1961 ? Ouf, le film n'est pas aussi horrible. Certes, il commence par le meurtre particulièrement brutal d'une vieille femme, genre masculiniste avant l'heure car le film se situe à l'époque victorienne. À l'origine du crime se trouve son mari aidé par deux servants dans le but de pouvoir récupérer l'argent de la pauvre femme. Et oui, c'était toujours une histoire d'argent au début. Hein. Seulement, la chatte de la victime a tout vu. Le mari, qui a une sainte horreur de l'animal, veut absolument l'éliminer, mais le félin étant bel et bien vivant, sait comment rendre fou ses adversaires. Oui, car éliminer un chat peut s'avérer aussi difficile que de lui faire avaler un médicament. Impossible de ne pas penser au chat noir d'Edgar Allan Poe avec cette chatte qui va venger le meurtre de sa maîtresse. Dit comme ça, cela peut sembler un peu ridicule. Pourtant, le film fonctionne bien et s'avère un bon suspense avec une belle brochette de salaud. John Gilling privilégie l'efficacité, distille quelques idées de mise en scène comme le point de vue subjectif de la chatte en déformant l'image. Le spectre du chat est surtout l'occasion de dresser le portrait d'une bourgeoisie mesquine et corrompue qui se vautre dans le lucre, où chacun est prêt à toutes les bassesses pour tirer la couverture à soi. La situation de l'action, dans une grande demeure isolée dans la campagne anglaise, entourée d'arbres et de marécages, contribue à instaurer une sensation mystérieuse. Le film devient jubilatoire quand il propose des morts, provoquées par la petite bête à poils, qui est décidément bien rancunière, toutes aussi violentes les unes que les autres, aussi violentes et aussi imaginatives les unes que les autres, bien avant la malédiction de Richard Donner. En effet, la petite Tabata, c'est le nom de la chatte, se faufile dans d'obscures caves ou entre les arbres pour mener les bourreaux de sa maîtresse à leur perte. Tout cela sous son œil impassible. Car c'est bien connu, ces félins sont des sociopathes qui aiment jouer avec leur proie. Et donc, Le spectre du chat de John Gielling est un petit film très sympathique, un bon suspense avec quelques morts bien sympas.
Eh oui, des morts bien sympas, c'est tout un concept ça, hein, quand même.
Un film d'horreur, c'est un... oui, c'est... on aime bien les morts sympas.
Non, c'est vraiment... un film à découvrir, parce qu'il est assez peu connu. Alors effectivement, il a fini par être distribué par la Hammer après différentes histoires de coproduction. On retrouve dedans quand même André Morel, qui est Watson dans Le Chien des Baskerville de Fisher. Et on retrouve aussi Barbara Shelley, célèbre pour, chez Fisher, avoir joué dans Dracula, Prince des Ténèbres. Elle a joué dans La Gorgone aussi, qui est très très bon. La musique est signée, ça c'est marrant, L'âme damnée de Costa-Gavras, Mikis Theodorakis, et on est bien loin du Sirtaki. Voilà, c'est plutôt rigolo. Et puis surtout, moi je voulais juste terminer là-dessus, c'est que John Gielling, il est souvent oublié quand on parle des metteurs en scène de la Hammer, cette firme mythique. John Gielling, en 66, c'est à la fois L'invasion des morts vivants et La femme reptile. Et c'est deux excellents petits classiques du fantastique britannique de la grande époque. Et donc, John Gielling, metteur en scène à redécouvrir, en fait. Hein. Donc, le coffret 13 cauchemars de la Hammer, en édition spéciale avec cette version remasterisée de Le spectre du chat de John Gielling, est disponible chez Elephant Film. Après les Britanniques, je vais filer un Rimini. Bon, pas vraiment, en fait. Je vais plutôt parler d'un film sorti chez Rimini édition, qui s'appelle Project X, que je connaissais pas. C'est un film de William Castle, film de 68, et de William Castle, on connaît La nuit de tous les mystères, on connaît sa production Rosemary's Baby, on sait que c'était on connaît The Tingler, tout ça, on connaît tous ces films qui ont été remakés à un moment dans les années 90-2000. On connaît aussi le Butler. Pourquoi ? Parce que, en fait, Joe Dante lui a rendu un magnifique hommage dans Panique à Florida Beach, où il y a un personnage inspiré de William Castle. William Castle qui, en fait, était une sorte de producteur de films, réalisateur, avec un côté très forain, qui se baladait comme ça dans les villes, accompagnait ses films pour des avant-premières, et qui avait toujours des idées assez dingues en termes de promotion de ses films. Par exemple, il avait, je crois que c'était pour The Tingler d'ailleurs, il avait fait installer sur les chaises des cinémas des petits boîtiers qui envoyaient des décharges électriques pour secouer les gens au moment des moments fatidiques. Il faisait aussi signer des assurances-vie à l'entrée de la salle, des fois qu'il y a quelqu'un qui meurt pendant le film de terreur, voilà, terrassé par la peur. Bon, tout ça, c'était plutôt marrant. Ouais, ça avait marqué Joe Dante, qui décrit donc dans Panique à Florida Beach une rencontre avec un ersatz de ce producteur dans ce très beau film qui est Panique à Florida Beach. Là, on n'est pas sur Panique à Florida Beach, on est dans un film assez étrange, hein, de William Castle. C'est un film sorti en 68. C'est un film en couleur. Alors, je n'ai pas vu tant de films que ça, en fait, en couleur de William Castle, quand j'y réfléchis. Tous ces films-là, 13 fantômes, tout ça, on est... Dans tous ces films, on est plutôt sur des films en noir et blanc. Là, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Alors, je vais essayer de vous le résumer, puisqu'il y a une histoire de paradoxe temporel. On est dans de la SF. Hein. On est en 2118. Demain, quoi. Hein, voilà. Un agent du gouvernement en mission en Asie prévient les États-Unis que le bloc occidental... Ouais, parce que bon, il y a toujours un peu la guerre froide en 2118, c'est revenu en fait. Et ça, il n'avait pas prévu, William Castle, qu'il n'y allait plus avoir la guerre froide à partir de 89. Il ne savait pas. Donc,
plus de communistes non plus.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc on est en 2118, donc je reprends au début du coup, à force de dire des salades, des salamalek. Un agent du gouvernement en mission en Asie prévient les États-Unis que le bloc occidental sera détruit 14 jours plus tard. C'est hyper précis. Donc on le retrouve finalement inconscient et amnésique. C'est plutôt embêtant. Des scientifiques congèlent son corps. Ils ont 14 jours, mais ils maîtrisent bien la cryogénisation. On est en 2118 quand même. Et ils lui donnent l'identité d'un voleur de banque de l'année 1968. Je sais, c'est pas clair dit comme ça, mais c'est pour lui provoquer un choc psychologique afin qu'il se rappelle d'un truc. Voilà. Et toutes les nuits, avec opiniâtreté, ils explorent son cerveau dans l'espoir qu'il finisse par se souvenir du message qu'il avait à transmettre à ses supérieurs. Parce qu'en en fait, il lui avait filé un truc qui est un genre de voilà, si jamais il était découvert ou si jamais il devait donc être mis à mal dans sa mission, il pouvait prendre un produit qui l'assommait, enfin qui le voilà. Et le problème, c'est que du coup, ça lui a effacé la mémoire aussi. Et du coup, il se rappelle plus la formule qu'il faut délivrer pour que justement le monde ne soit pas détruit 14 jours plus tard. Ouais. Vous avez compris ? Vous n'avez pas compris ? Si, vous avez compris. Voilà. Et après, du coup, Christopher Nolan dans Inception. Ah non, je m'égare. Du coup, William Castle, il nous pompe avec tout ça. En fait, un film assez rigolo et très étrange, hein. Très très étonnant, parce que bon, bah, ce produit anti-torture, en fait, parce que j'adore, en fait, le produit qui fait qu'il oublie tout, c'est un produit anti-torture. Mais ce produit anti-torture, il n'est actif que si jamais il est torturé. Donc, à quoi ça sert ? C'est-à-dire que c'est la douleur qui provoque, en fait, le produit. Moi, je préfère juste avoir le produit et pas être torturé, quoi, du tout. Mais bon, après, bon, bah, c'est comme ça. Donc, et la douleur donc, a effacé sa mémoire. Et donc, en fin de compte, c'est lui qui détient la clé de cette arme secrète sur laquelle travaillaient les méchants asiatiques. Évidemment, le péril jaune, on est en plein dedans. Et donc, du coup, bon, bah, ils vont essayer de retrouver ce qu'il a dans la tête, d'où ce jeu de rôle, hein, très étrange, que je vous racontais tout à l'heure. Donc, alors le film est assez original, en fait. Moi, j'adore les décors. Je crois même que j'étais en train de le regarder, j'ai envoyé une photo à Thomas de ma télé pour lui faire voir les décors complètement dingues, un peu la Star Trek. C'est très coloré, enfin c'est assez chouette. Et puis surtout, il y a pas un moment, les personnages se baladent dans des séquences animées par Anna Barbera. Alors vous vous rappelez tous de Anna Barbera, les fous du volant, enfin voilà, tous ces dessins animés qui ont peuplé les écrans télé lors de notre enfance, quoi, voilà. Donc, du coup, c'est ça qui provoque, en fait, le petit truc en plus, hein, et qui fait que le film a un petit charme indéniable, ce petit film de SF, en fin de compte, assez anodin, mais par son aspect plastique, par son scénario un peu alambiqué, par sa vision du monde aussi, qui apparaît comme surannée aujourd'hui, le film ne manque pas de charme. Et puis, dans le rôle principal, j'en terminerai là-dessus, il y a Christopher George. Alors, Christopher George, les fans de cinéma horrifique se rappellent de lui pour avoir joué dans Frayeur de Lucio Fulci, évidemment. Ça a un peu mal fini parce qu'il a fini chez Menahem Golan et Juan Picker Simon, hein, dans L'Implacable Ninja. Ça, super film, L'Implacable Ninja. Et Le Sadique à la tronçonneuse aussi, hein, de Juan Picker Simon. Bon, voilà. C'est un peu triste. Alors, sachant qu'il avait quand même débuté par des films d'Howard Hawks, comme Eldorado. Il avait joué aussi chez McLaglen pour Chisholm. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça démarrait plutôt bien, mais bon, il faut bien manger. Donc, il a fini par tourner dans des trucs assez bis. Et on reconnaîtra aussi, d'ailleurs, un autre acteur de la grande période d'Hollywood, puisqu'il a joué par exemple dans Vertigo, dans 3h10 pour Yuma, c'est Henry Jones qui interprète un docteur qui est un personnage, assez rigolo en fin de compte, assez péremptoire par moment, enfin plutôt rigolo. Alors, bon, au final, un bon divertissement, un bon petit divertissement de SF. Alors, le scénario est un peu alambiqué parfois, un peu tordu pour au final, en fin de compte, pas être très compliqué. Ah bah ça me rappelle encore Nolan en fait. Donc voilà, donc du coup, pour ceux qui sont fans de Nolan, peut-être voir ce Projet X, puis pour les autres aussi. Hein. Donc Projet X de William Castle, c'est un film de 68. Et à signaler dans les bonus proposés dans cette édition Rimini, il y a un petit documentaire sur William Castle réalisé par Alexandre Jousse. Et là, vous apprendrez, donc pareil, il y a des trucs que je vous ai racontés tout à l'heure, puis vous apprendrez d'autres choses sur ce personnage, voilà, pour le coup, bigger than life, qu'était William Castle. Écoutez Culture Prohibée spéciale SF fantastique et horreur. D'un William à un autre, je ne parlerai pas de la famille royale, hein, qui actuellement est au cœur de nombreux dossiers, mais on va plutôt aborder William Fruette, qui est un réalisateur canadien, réalisateur de films plutôt sympathiques d'ailleurs, William Fruette, hein, qui a marqué son époque. On se souvient d'un certain Week-end de terreur, n'est-ce pas, qui a fait les beaux jours des vidéoclubs, du temps où on regardait des films sur des supports physiques qui s'appelaient VHS, dont la bande se prenait dans le magnétoscope et après il fallait rembourser 500 balles au vidéoclub. C'était horrible. Là, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le Cri des Ténèbres, Cries in the Night ou Funeral Home. Enfin, on va garder le titre français, Le Cri des Ténèbres, parce que bon, je me visualise bien des ténèbres en train de crier. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça a de la gueule. Donc, c'est réalisé par William Fruette. Oui, vous non plus, hein, c'est bien, je me disais bien. Et c'est sorti en édition collector Blu-ray avec un très beau livret de Marc Toulec, voilà, chez Rimini Édition. Et c'est l'histoire d'un mec qui a vu Psychose, visiblement, ce film. Non, c'est pas mon cher Thomas, qui l'a vu très fort. Je vais laisser Thomas en parler, parce que je sais que Thomas, les cris des ténèbres, c'est des trucs qu'il entend régulièrement.
Ah ouais, par chez moi, j'entends beaucoup les ténèbres crier. Je trouve, Gégé, que tu en dis déjà beaucoup sur le film. Alors le film, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient passer l'été chez sa grand-mère et qui elle veut développer une maison d'hôtes dans une grande bâtisse qui était un ancien funérarium. Et puis, qui vont recevoir, bien sûr, des invités hein, dans cette maison. Un couple un peu vulgaire. Il y a un vieux monsieur qui est là, qui apparemment elle est là depuis longtemps et qui commence à bien sympathiser avec la grand-mère et puis la jeune fille. Et puis la jeune fille va sympathiser aussi avec un jeune homme du coin, évidemment. Hein. Le jeune homme du coin qui est aussi le frère d'un jeune policier. Un jeune policier plutôt stagiaire, hein, qui est plutôt un peu maladroit et qui va quand même un peu à l'encontre du cliché du policier maladroit, parce que lui, on s'attend à ce qu'il se fasse dégommer vite fait, mais non, c'est l'une des grandes surprises du film. Et ce policier maladroit, en fait, il découvre qu'il y a des gens qui disparaissent. Il y a un fermier qui va attirer son attention sur une voiture d'un commercial qui traînait dans le coin depuis quelques temps. La voiture est abandonnée sous une montagne de paille. Et lui, il prend ça très au sérieux, mais sa hiérarchie lui dit « Mais écoute, on n'est pas là pour ça, toi. Mets des amendes sur les bagnoles des touristes, etc. Ça nous ramènera du pognon. » Et donc, finalement, il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans cette petite ville. Et il y a quand même des meurtres assez sanglants, assez brutaux qui se déroulent. Bon, c'est difficile d'en dire un peu plus sur ce film, parce que c'est quand même... Bon, quand on connaît ces classiques, on devine très vite de quoi il retourne. Mais c'est un petit film très efficace qui instaure quand même une bonne ambiance... Ténébreuse,
avec des cris. Effectivement, Thomas, si on connaît ces classiques, on a tôt fait de deviner la fin, mais c'est pas trop ça qui compte dans le film, je trouve. Je trouve que le film a vraiment un vrai cachet, une vraie ambiance. Il n'y a pas beaucoup de moyens, hein, mais William Fouette, c'est vraiment y faire. Et il y a un garçon de ferme, par exemple, qui est un peu étrange. Enfin, ils ont tous des gueules de coupables, en fait. Ce petit vieux trop gentil, ce couple illégitime. Et puis oui, il y a cette jeune femme qui est... C'est la final girl. C'est presque un slasher, sans en être un. Ce film est... évidemment, elle a son petit... Bah, ils sont beaux, ils sont jeunes, tout de suite, ils se trouvent. Hein, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. C'est un peu mortifère, comme quoi. Et du coup, on est dans une sorte... De vision un peu des rednecks américains, sauf que c'est un film canadien en vérité. C'est un film canadien de William Fouette, mais il vise clairement cet univers-là, le film de redneck, avec les policiers, comme tu dis, le policier un peu gauche. Voilà, et c'est pas souvent que les policiers sont à gauche. Donc, le film a pour moi un vrai charme, une vraie ambiance, et vraiment, pour moi, il est à redécouvrir, parce que c'est pas le plus connu de William Fouette. Je pense même que c'est la plus belle copie qui existe du film. Et puis, l'idée de situer l'action aussi, parce qu'à un moment, il y a un truc, elle se rappelle d'une histoire avec un gamin qui avait été enterré et tout. Il y a des moments très glauques quand même dans le film. Hein. Elle fait aussi des bouquets de fleurs qu'elle a gardé comme habitude du temps où ils enterraient régulièrement des gens. Enfin, il y a des trucs un peu glauques quand même dans le film, hein, et un peu étranges.
Il y a quand même quelques fausses pistes, parce que finalement, là, cette jeune femme, il la présente un peu de façon un peu bizarre, parce qu'il y a un moment, il y a une scène où elle est à la fenêtre, elle regarde des personnages en plus bas, elle a une façon d'être qui est assez étrange, on se dit qu'elle n'est pas bien, et il y a ce rapport qu'elle a à un chat, bon, il y a encore une histoire de chat, un chat noir qui est là, qui traîne, alors on se dit, elle a une... comme le personnage dans Le Spectre du Chat, elle a une peur irraisonnée des chats. On ne sait pas pourquoi. Et là, on se dit que le réalisateur essaie de nous donner une fausse piste par rapport à ce personnage qui peut être interprété comme quelqu'un d'étrange au départ. Mais bon, c'est une fausse piste qui s'étiole très vite.
Oh, mais Fouette est malin. Il tire vraiment le maximum de son petit budget et de son scénario, qui est assez mince quand même. Hein, voilà. Et effectivement, bah, dans la même émission, deux films avec des chats sympas. Parce que c'est des chats sympas, les deux, là. Donc voilà, on va garder, parce qu'il y en a marre de faire mal aux chats dans les films d'horreur. Deux chats sympathiques, on va passer à un film très étrange, très étonnant, signé Po Chi-Leong, un film de 1985 qui s'appelle The Island, qui est sorti, là, il n'y a pas longtemps, chez Carlotta Film. On avait parlé de Po Chi-Leong, il n'y a pas longtemps, au sujet de Hong Kong 1941, qui était un film intéressant, moins barré que celui-là quand même, hein.
le très 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 prolifique Po Chi-Leong,
un réalisateur qu'on connaît tous pour avoir signé entre autres un film avec Jude Law qui s'appelle La sagesse des crocodiles. Bon, là on est loin de cet univers là. Là on est en 85. Le film, c'est une sorte de slasher survival qui se passe donc, comme son titre l'indique, sur une île dans lequel un professeur de géographie, il va emmener des élèves en excursion sur cette île déserte. Et puis ça va pas bien se passer, Thomas. Mais alors, pas bien du tout.
Ah, c'est des vacances un petit peu mouvementées, hein, on va dire. Hein. Effectivement, ils vont faire la connaissance d'une étrange famille. Alors, le réalisateur nous présente cette famille très vite. Hein. C'est très vite. On voit que ce sont des gens bizarres. C'est trois frères qui vivent avec leur mère. Et il y a une jeune femme qui semble être leur prisonnière et qui veulent absolument marier au plus jeune des frères, hein, qui n'a pas l'air bien dans sa tête, hein, qui n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, mais surtout de la morve qui coule d'une narine de façon assez constante. Donc, c'est pas très sexy. J'imagine bien que la jeune femme n'est pas très en vie, ne soit pas très érotisée par ce personnage. Et donc, ça se passe pas bien. Ils veulent faire une ersatz de mariage. Enfin, c'est assez bizarre. Et là, le réalisateur coupe assez vite pour venir... pour nous présenter cette classe, hein, avec ce professeur qui arrive sur l'île et puis qui vont donc faire la connaissance de cette famille assez étrange. Et la jeune femme a disparu. Hein, la jeune femme a disparu. Ils vont et puis il va s'installer une ambiance de plus en plus étrange, des relations. Cette famille, cette fratrie, en fait, parce que la mère est morte entre temps. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais bon, la mère est morte en tant temps. Il ne reste plus que les trois frères. Et cette fratrie va jouer avec ses élèves, vont insinuer que telle jeune femme, ils vont choisir telle jeune femme pour la marier à ce frère pas très sexy. Et ils vont avoir des jeux de plus en plus violents, de plus en plus étranges, de plus en plus sadiques, etc. Et au bout d'un moment, le film, il va basculer complètement avec une scène de rêve assez étrange. Et c'est un film entre... le film de Redneck, genre Massacre à la tronçonneuse, mais moi j'y vois aussi à un moment un film de siège, genre Assaut de John Carpenter, et qui reprend en plus des scènes vraiment quasi, je vais pas dire des scènes identiques parce que c'est pas le même film, j'imagine bien que Po Chi-Leong il a pas pompé John Carpenter, mais vraiment les scènes du film de siège, c'est un film assez étrange qui mélange plusieurs genres à la fois, c'est assez violent, c'est avec une façon de jouer des acteurs qui est assez frénétique. C'est un film c'est un film assez étrange et assez violent quand même, avec ce mélange des genres assez particulier.
Disons qu'on est à deux doigts de la catégorie 3 et qu'on n'y est pas. Voilà, mais on n'en est pas loin. Et c'est vrai que le film totalement singulier. Enfin, ça ressemble à pas beaucoup d'autres films. Il y a même un côté comique aussi dans le film. Il y a un petit aspect comédie, de par le jeu outré, des comédiens, tout ça. Enfin, ça mélange plein de choses, que tu as très bien décrites d'ailleurs. Alors, pour rappel, The Island, c'est sorti chez Carlotta, donc c'est un film de Po Chi-Leong, c'est un film de 85, vous l'avez compris, c'est un film pas comme les autres. Voilà. Dans le genre film pas comme les autres, là, parce qu'on a plus beaucoup de temps, donc je vais aller vite sur celui-là pour qu'on se laisse un peu de temps pour parler du dernier film, qui est un film quand même qui jouit d'un certain culte, le dernier film. Donc je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2025, qui fait partie du Twisted Childhood Universe, le TCU, qui est un univers visiblement créé par un certain Dan Allen, qui a récupéré toutes les licences tombées dans le domaine public de Disney, comme Winnie the Pooh, Blood... Non, je vais bien le prononcer. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Ouais, parce qu'en plus, il a fait une suite. Il a persévéré. Peter Pan's Neverland Nightmare devrait arriver là, normalement. Voire, il est déjà arrivé, hein, je ne sais pas. Je n'ai pas bien suivi, j'avoue. Damien me fait signe que oui, il est arrivé. Et puis, on a ce Bambi la Vengeance. Qui n'est pas du tout l'histoire de Michael Jackson qui se ferait exonérer, qui reviendrait d'entre les morts pour se faire exonérer d'injustes accusations pédophiles dont il a été victime. Non, non, non. Bambi la Vengeance, C'est une sorte de, comment dire, de détournement de Bambi, hein, l'original Bambi. Bambi qui est déjà un vrai film d'horreur quand même, il faut dire. Parce que celui qui a vu le Bambi de Disney enfant est forcément traumatisé à vie. Hein, la mère de Bambi, quand elle se fait flinguer, c'est horrible. On est d'accord, on est tous d'accord. Hein, c'est une des premières frayeurs enfantines pour beaucoup de cinéphiles. D'ailleurs, pour Guillermo del Toro, c'est le film le plus effrayant de tous les temps. C'est-à-dire s'il s'y connaît en plus en termes de frayeur, Guillermo del Toro. Et donc là, l'histoire, bah, je viens de là un peu de, j'ai un peu de spoiler. j'ai divulgâché. bah oui, la mère de Bambi se fait tuer. c'est incroyable. Donc, alors que Bambi, c'est juste un fan. Quoi. Et puis, Bambi... va perdre sa compagne Faline qui est renversée par un camion, ça c'était pas dans le Disney, hein, et qui transportait des déchets radioactifs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Déchets radioactifs, Bambi. Du coup, Bambi, ça va devenir une sorte de super fan, quoi. Mais il faut vraiment pas le gonfler. Bambi, c'est le fan, mais alors le fan toxique. Le Toxic Avenger version Bambi, en fait. Mais en moins bien que le film de la trauma. voilà. Le Peter Dinklage, je ne l'ai pas vu. Alors, mais bon, j'hésite, je ne sais pas trop. Bambi se transforme en une créature puissante déterminée à se venger. Et oui. Et peu de temps après, Xana et son fils Benji prennent un taxi pour rejoindre le reste de leur famille pour Thanksgiving. ils vont voir ce qu'ils vont voir. Le véhicule est sauvagement attaqué par Bambi. Et oui, la dame, tu ne l'auras pas. Ou alors autrement. Et les trois chasseurs se lancent dans la traque du grand cerf. bon, c'est pas très sérieux, vous l'avez compris. C'est un mystère pour moi que ça sorte en 4K quand même, parce que c'est assez incroyable. Les effets numériques sont quand même pas beaux, hein. Enfin, faut dire les choses. Alors, j'ai pas pour habitude de parler des films que j'aime pas, donc je vais pas en dire plus. Franchement, Bambi la vengeance, c'est une grosse déception, parce que je m'attendais au moins à un truc super fun. Je m'attendais à un truc très con, mais fun. Le truc qui fait pas réfléchir, que tu peux voir après trois apéros et puis en mangeant des chips avec les copains, mais non, bon, ça n'a pas pris. Donc, si vous voulez tenter l'expérience, c'est chez Arcades. Alors, Arcades a fait beaucoup mieux avec des polars français et tout. Je vous conseille plutôt d'aller vers ces films-là.
Paramount Pictures cordially invite you to the party. To end all parties.
April Fool. You are such a jerk. Something wrong?
Vous écoutez Culture Prohibée.
April Fool's Day. Get ready to party till you drop. Rated R.
Starts Thursday, March 27th at a theater near you.
On va terminer cette émission avec Weekend de terreur, April Fool's Day, qui est un film de Fred Walton qui est sorti là chez Rimini. Alors Fred Walton, c'est quelqu'un qui jouit quand même d'un certain culte, puisque c'est Terreur sur la ligne. D'abord un court-métrage, après un long-métrage, et après une suite, Terreur sur la ligne 2. Donc bon, ça dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais néanmoins, Terreur sur la ligne, c'est un film qui a considérablement marqué. Alors certains même le considèrent comme un des meilleurs thrillers de tous les temps. Vous savez, c'est ce thriller où une nounou va garder un gamin, et puis il y a un type qui appelle, et puis... on finit par comprendre que le type est dans la maison avec elle, en fait. Voilà. Et ça, c'est d'une efficacité absolument redoutable. Et c'est vrai que c'est vachement bien. Il faut dire ce qui est. Et c'est digne d'Hitchcock, en fait. Hein. Vraiment, par moments, le film est assez incroyable. Et d'après mon ami Thomas, lui me dit que le 2 est encore meilleur, d'ailleurs, qu'il est encore plus impressionnant. Et puis, au milieu de... Parce que c'est un petit mètre de suspense... Mais il n'a pas fait tant de films que ça pour le cinéma, Fred Walton. Il a aussi beaucoup travaillé pour la télé, tout ça. Et Fred Walton, il signe donc en 86 cet étrange week-end de terreur qui raconte une histoire simple. Hein. C'est une riche héritière, une jeune femme, qui invite des amis à elle, des étudiants, à passer le week-end du 1er avril, donc on va se faire des farces, hein, dans un luxueux manoir situé sur une île privée que possèdent ses parents. La fête s'annonce grandiose et Murphy a préparé quelques poissons d'avril, mais la plaisanterie vire au cauchemar lorsque les invités disparaissent les uns après les autres. Alors, on les aide à disparaître, hein, ils ne disparaissent pas tout seuls. Hein, c'est un peu sanglant quand même. Et mon cher Thomas, je crois que toi, tu aimes bien notre ami Fred Walton.
D'ailleurs, avant d'arriver sur cette île, hein, dès la traversée en bateau, les incidents se multiplient. Alors, il y en a un qui se prend un coup de couteau, et à un autre qui est grièvement blessé, mais seulement le coup de couteau, c'était une blague. C'était une blague de mauvais goût parce que nous sommes le 1er avril. Et oui, c'est le jour où on se fait des blagues. Et d'ailleurs, ils ne vont pas manquer de s'en faire, les blagues, une fois sur l'île, à un dîner où les tensions vont un peu monter entre eux d'une certaine manière. Après ce dîner, donc, les jeunes vont disparaître les uns après les autres, victimes d'un mystérieux tueur. Ouais, bref, un slasher comme on les aime dans les années 80. Déjà dans Terreur sur la ligne, Fred Walton jouait avec les codes du slasher, et au bout d'une demi-heure, le film changeait de tonalité et s'orientait vers le genre policier. D'une autre façon, les récidives ici avec cet April Fool's Day, le titre original de Weekend de Terreur. En effet, tout est dans le titre et tout est à sa place pour une farce des plus macabres. Le prologue qui est censé relater un trauma d'enfance, la boîte à musique, les personnages qui changent d'attitude d'une séquence à l'autre, les meurtres raffinés et l'hémoglobine. Fred Walton aime s'amuser avec les apparences, les faux-semblants, qui est aussi un des motifs du slasher et du thriller en général, en multipliant les fausses pistes. Pourtant, à première vue, le film s'avère assez classique dans sa forme, avec un beau scope et une belle photographie signée Charles Minsky, qui sait autant créer des ambiances ensoleillées pour des scènes d'extérieur que des atmosphères plus sombres pour les scènes de nuit et les intérieurs. Le travail sur la lumière et la gestion de l'espace transforme la villa en un véritable petit labyrinthe, un piège qui se referme petit à petit sur les personnages, avec une photo qui s'assombrit de plus en plus. Sans signer son meilleur film, Fred Walton réussit une œuvre efficace qui comporte son lot d'images choc et, bien sûr, d'hémoglobine. Pourtant, par son côté déceptif, les amateurs de massacres à l'arme blanche en tout genre pourront se sentir floués. Après tout, les retournements de situation à Abracadabra n'étaient déjà pas nouveaux, le giallo et ses résolutions improbables étant déjà passés par là. Weekend de terreur peut aussi se voir comme une critique sociale, celle d'une certaine classe sociale qui s'ennuie, à moins que cela ne soit une parabole d'un capitalisme qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. En dire plus reviendrait à dévoiler l'intrigue et son aspect ouvertement vicelard, car c'est un film quand même assez pervers.
Ouais, pervers au sens tordu, hein, vraiment au sens manipulateur, j'ai envie de dire. Voilà, moi j'avoue que la fin me déçoit un peu du film, hein. Mais on va pas en parler, parce que le film est vraiment, se tient très bien, et puis effectivement il y a ce final qui est étonnant, soit dit en passant, mais qui est
déceptif.
Voilà, on est d'accord. Donc ça s'appelle Weekend de terreur. C'est vraiment un petit film culte, hein. Moi, je me rappelle que c'était un film très prisé des vidéoclubs. Je suis très vidéoclub aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est signé Fred Walton. C'est disponible chez Rimini édition. Et oui, et puis tu l'as pas dit aussi, une chouette musique de Charles Bernstein, qui était un petit spécialiste quand même des musiques de petits films horrifiques comme ça, et qui signait des choses assez efficaces. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous replonger avec délectation dans ce slasher, on va dire ça comme ça, de 1986. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Thank you.